VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mercredi 11 mars 2020. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Premier cas de coronavirus enregistré en République démocratique du Congo.
Au Burkina Faso, l'opposition exige une enquête indépendante sur les récentes attaques sanglantes contre trois villages peuls du Nord.
Les opérations anti-djihadistes des Européens au Sahel ne sont ni suffisantes ni assez coordonnées, selon le chef d'Africom.
Et selon un autre général américain, les États-Unis ont apporté une aide limitée aux talibans face au groupe État islamique en Afghanistan.
Ici aux États-Unis, victoire convaincante de Joe Biden aux primaires démocrates d'hier dans au moins 3 sur 6 États, dont le Michigan.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
La République démocratique du Congo a donc enregistré son premier cas confirmé de coronavirus selon les autorités sanitaires du pays. Le point avec Eddie Isango.
Le patient est un Congolais de 52 ans vivant en France, récemment retourné à Kinshasa, la capitale congolaise. Le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, a indiqué à VOA Afrique que le malade est présentement mis en isolement dans un hôpital de la place et que tout était fait pour retrouver toutes les personnes contact. Le gouvernement appelle à ne pas paniquer et demande aux citoyens une stricte observance des règles d'hygiène, entre autres les lavages réguliers de mains. Des sites de prélèvement des températures et des examens préliminaires sont installés au poste des frontières. Un camp d'isolement est construit dans la périphérie de Kinshasa pour des cas qui apparaîtront plus tard. La RDC est en train de sortir d'une épidémie d'Ebola qui a, en plus de 2 ans, fait plus de 2264 morts dans l'Est. 3444 cas ont été diagnostiqués, mais il faut attendre 42 jours depuis que le dernier cas a été guéri pour qu'Ebola soit déclaré vaincu en RDC.
Le nombre de contaminations au nouveau coronavirus recensé aux États-Unis dépassait mardi les 1000 cas et au moins 28 personnes sont décédées du COVID-19 selon l'université américaine Johns Hopkins. En Chine, où le virus est apparu fin 2019, le ministère de la Santé a annoncé aujourd'hui 22 morts au cours des dernières 24 heures. Il a fait état également d'une légère remontée du nombre de nouvelles contaminations. Le pays compte désormais 3158 décès sur un total mondial qui a franchi mardi la barre des 4000 morts. Pékin avait annoncé mardi 17 nouveaux décès. Le nombre total de contaminations s'inscrit désormais à 80 778 en Chine, sur un total mondial de plus de 117 000.
Et à l'extérieur des frontières chinoises, l'épidémie poursuivait son inexorable avancée, se rapprochant d'une pandémie selon l'Organisation mondiale de la santé. Augmentation significative du nombre de victimes dans plusieurs pays, tels l'Italie, l'Iran et l'Espagne. Premier décès au Maroc, au Liban et au Panama. Première personne atteinte signalée en République démocratique du Congo, au Burkina Faso, en Mongolie, en Turquie et 2 cas en Bolivie.
L'opposition burkinabé a exigé mardi une enquête indépendante après les attaques qui ont fait 43 morts dimanche dans 3 villages peuls du nord du Burkina Faso, Bagassoukoub Koura.
L'opposition s'est dite indignée par le massacre de 43 civils. Au regard de la gravité de ce drame et de la confusion qui l'entoure, l'opposition exige une enquête indépendante, a déclaré Amadou Diemdjoda Diko, vice-président de l'Union pour le progrès et le changement, lors d'une conférence de presse qui avait réuni toute l'opposition. Dans un communiqué, le gouvernement burkinabé affirmait que ce crime de masse a été perpétré par des individus armés non identifiés, alors que de son côté, des sources locales jointes par l'AFP, les assaillants sont des groupes d'autodéfense qui agissent en représailles aux attaques djihadistes. Le gouvernement a aussi souligné que le procureur du Faso avait été saisi pour toute fin utile. La présidence a décrété lundi un deuil de 48 heures en hommage aux 43 civils tués dimanche dans plusieurs attaques dans le nord du pays en proie à de fréquentes attaques djihadistes. En plus, les tensions y dégénèrent périodiquement en violences intercommunautaires.
Et ici à Washington, le chef d'Africom, le commandement américain pour l'Afrique, le général Stephen Townsend, estime que les opérations anti-djihadistes des Européens au Sahel ne sont ni suffisantes ni assez coordonnées. Il a aussi noté que les groupes djihadistes dans cette région visent davantage l'Europe que les États-Unis. Le général Townsend répondait à des questions à la Chambre des représentants sur la revue de la posture américaine en Afrique actuellement menée au Pentagone.
9 opposants tanzaniens, dont des députés, ont été condamnés hier à une forte amende ou à 5 mois de prison ferme pour avoir organisé une manifestation interdite en 2018. Le point avec Nanit Talani.
Les accusés, dont le président du parti Chadema, Freeman Bowie, 4 députés et 4 autres opposants, ont été placés en détention provisoire car ils n'ont pas pu payer l'amende de 350 millions de shillings tanzaniens, soit 152 000 dollars américains fixés par le juge. Nous sommes allés au tribunal en croyant que nous pouvions gagner. Cependant, cette condamnation ne nous empêchera pas de nous battre pour la démocratie dans ce pays, a déclaré le vice-président du parti, Saïd Issa Mohamed, après le verdict. Selon lui, le Chadema, le principal parti d'opposition en Tanzanie, essaie de réunir les fonds nécessaires et envisage de faire appel. En 2018, Freeman Bowe et les autres condamnés avaient été accusés de rébellion, de rassemblement interdit et d'incitation à la violence à l'occasion d'une manifestation interdite au cours de laquelle la police avait tiré à balles réelles pour disperser les partisans de Chadema. Un étudiant de 22 ans qui ne participait pas à la manifestation avait été tué par une balle perdue de la police.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, en remportant l'État-clé du Michigan, Joe Biden a pris mardi un avantage déterminant face à Bernie Sanders dans les primaires démocrates pour désigner l'adversaire du président Donald Trump à l'élection de novembre. Les précisions de Jean-Roger Bion.
L'ancien vice-président de Barack Obama a largement remporté au moins 3 des 6 États en jeu lors de ce mini Super Tuesday, Mississippi, Missouri et surtout Michigan. Joe Biden, champion du camp modéré, grand favori depuis ses victoires des 10 derniers jours et les ralliements en cascade autour de sa candidature, semble donc toujours plus difficile à rattraper pour le sénateur socialiste Bernie Sanders, beaucoup plus à gauche. Tous les yeux étaient rivés sur le Michigan car cet État est un gros pourvoyeur de délégués qui désigneront en juillet le candidat démocrate pour la Maison-Blanche. Mais aussi Bernie Sanders y avait créé la surprise lors des primaires de 2016 en s'imposant face à la favorite Hillary Clinton. Je veux remercier Bernie Sanders et ses partisans pour leur énergie infatigable et leur passion, a déclaré Joe Biden à l'issue des primaires de ce mardi, tendant ainsi la main à son rival. Nous avons le même but et ensemble nous battrons Donald Trump, nous rassemblerons ce pays, a-t-il lancé dans un discours sobre, assurant incarner le retour de l'âme de la nation. Bernie Sanders, rentré dans son fief du Vermont, a décidé pour sa part de ne pas s'exprimer publiquement mardi soir selon les médias américains.
Et nous reviendrons sur les primaires démocrates de mardi avec notre confrère René Lake en seconde partie de cette édition.
Un général américain a révélé hier que les États-Unis avaient apporté une aide limitée aux talibans pour qu'ils combattent le groupe État islamique en Afghanistan, l'un des principaux engagements sécuritaires pris par les insurgés afghans dans leur accord de paix avec les États-Unis. Ekia Badou.
Le général Kenneth McKenzie, chef du commandement central de l'armée américaine qui couvre l'Afghanistan, était questionné par les élus de la Chambre des représentants sur la situation sur le terrain après la signature de l'accord avec les talibans le 29 février à Doha. Ces derniers mois, dans l'est de l'Afghanistan, nous avons observé les talibans contenir et écraser une présence de l'État islamique sur le terrain dans la province de Nangarhar. Et ils l'ont fait avec beaucoup d'efficacité. Il y avait un soutien très limité de notre part, a déclaré le général McKenzie. Il a révélé pour la première fois une coopération militaire entre les États-Unis et les talibans, sans préciser la nature de ce soutien. Le général McKenzie s'est déclaré moins optimiste à propos de la volonté des talibans de combattre Al-Qaïda, l'organisation djihadiste responsable des attentats du 11 septembre 2001, préparée alors avec le soutien des talibans. Il a ajouté que l'armée américaine n'avait encore préparé aucun plan militaire de retrait total d'Afghanistan, elle a commencé à se retirer de 2 bases dans le pays. Selon le texte de l'accord, le nombre de soldats américains sur place doit passer de 12 ou 13 000 à 8 600 d'ici mi-juillet.
Et le gouvernement afghan s'est dit prêt aujourd'hui à libérer progressivement 5000 prisonniers talibans en échange d'une réduction importante des violences en Afghanistan, ouvrant ainsi la voie à des pourparlers historiques entre Kaboul et les insurgés.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
L'Éthiopie ne cherche ni à conclure un accord sur son projet de barrage géant, ni à proposer une alternative, a déclaré le ministre égyptien de l'irrigation, Mohamed Abdel Atti. Un accord rédigé par les États-Unis, médiateur des pourparlers entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan, n'a pas encore été signé par ces deux derniers pays. Pour Washington, le remplissage du réservoir du barrage ne devrait pas avoir lieu sans accord, mais l'Éthiopie veut commencer à remplir le barrage en juillet. La Russie affirme qu'elle n'est pas prête à investir 10 milliards de dollars pour la construction d'une centrale nucléaire zambienne. La Zambie espère que la mise en service de cette centrale lui permettra de produire de l'électricité susceptible de répondre pleinement aux besoins des populations, mais qui pourrait aussi être exportée vers les pays voisins. Mais la Zambie manque de fonds suffisants pour financer le projet. Pour terminer, la République du Congo espère parvenir à une restructuration de sa dette de 1,7 milliard de dollars envers les négociants suisses Glencore et Trafigura avant sa réunion avec le FMI en avril. Le FMI avait retardé la soumission d'un examen de fin d'année 2019 à son conseil d'administration en attendant que Brazzaville finalise un accord avec ses sociétés. Par ailleurs, Maxon Raoul Ominga, directeur général de la société d'État SNPC, a déclaré à Reuters que la situation s'est aggravée en février lorsque Glencore a tenté de récupérer ses fonds et d'empêcher la livraison de certaines cargaisons de brut du Congo.
Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La Zambie qualifiée pour les JO 2020 en football.
Oui, les Zambiennes se sont qualifiées à domicile grâce à leur victoire 2-1 face aux Lions indomptables du Cameroun. Ces dernières avaient remporté la manche aller 3-2 à Yaoundé, 4-4 donc sur l'ensemble de cette double confrontation. La règle des buts inscrits à l'extérieur permet ici à la Zambie de se qualifier directement pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Quant aux Camerounaises, elles devront disputer un match de barrage pour espérer décrocher le dernier ticket féminin pour les Jeux Olympiques. Les Lions indomptables feront face à l'équipe chilienne, barragiste de la Confédération sud-africaine. Cette double confrontation qualificative se disputera le 9 et 15 avril prochain.
Suite des huitièmes de finale retour en Ligue des champions ce soir en Europe.
Oui, la victoire est impérative pour Liverpool, tenant du titre qui fait face à l'Atlético Madrid. Les Colchoneros, vainqueurs 1-0 des Reds au match aller, débuteront la rencontre en meilleure posture que leur hôte d'enfile. Pour ce duel crucial, Liverpool pourra compter sur ses Africains Sadio Mané et Mohamed Salah, buteurs le week-end dernier en championnat, ainsi que le Guinéen Naby Keïta. Comme Liverpool, le Paris Saint-Germain voudra renverser la vapeur à domicile contre Dortmund, mais sans ses supporters. Décrété lundi en raison de l'épidémie de coronavirus, le huis clos est un handicap supplémentaire pour le PSG, en position précaire après sa défaite 2-1 au match aller en Allemagne.
Justement, tous les matchs du championnat de France se joueront à huis clos jusqu'en avril.
Ainsi en a décidé la Ligue française de football professionnel. Cette mesure sera en vigueur jusqu'au 15 avril à cause de la propagation de l'épidémie de coronavirus.
David Rudisha, de retour à l'entraînement.
Oui, après des blessures et un grave accident où il a frôlé la mort, le roi kényan du 800 mètres a repris les répétitions. David Rudisha dit espérer marquer l'histoire cet été à Tokyo en remportant 3 fois de suite le 800 mètres aux Jeux Olympiques. Le Kenyan de 31 ans a battu le record du monde en finale des Jeux Olympiques de Londres en 2012 en 1 minute 40 secondes 91. Il a ensuite enchaîné avec un deuxième titre à Rio en 2016. Mais depuis juillet 2017, David Rudisha a connu des blessures récurrentes l'an dernier. Sa voiture a percuté de plein front un bus qui circulait du mauvais côté de la route. Physiquement, il s'en est sorti indemne, mais des séquelles psychologiques persistent selon lui. On parle de basketball pour finir avec vous, Idrissa. Les résultats de la nuit dernière en NBA.
Eh bien, surprise, les Lakers ont été battus par Brooklyn 104 à 102. En revanche, les LA Clippers n'ont pas déçu et ont battu Golden State Warriors 131 à 107. Houston et Minnesota 117 à 111. San Antonio et Dallas 119 à 109. Boston et Indiana 114 à 111. Orlando et Memphis 120 à 115. Portland et Phoenix 121 à 105. Chicago et Cleveland 108 à 103. Washington et New York 122 à 115.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Mali, le leader djihadiste Iyad Aghali veut négocier. Il l'a fait savoir ce week-end en réponse aux demandes incessantes de dialogue du gouvernement malien. Mais le leader terroriste pose ses conditions, notamment le retrait des troupes étrangères du Mali. Pour une analyse, Bagassi Koura a joint Baba Dakono, chercheur à l'Institut d'études de sécurité de Bamako.
Déjà, il est important de rappeler que cette position de Iyad Aghali favorable à une discussion avec les pouvoirs publics n'est pas nouveau. On se rappelle en 2012, avec la médiation internationale qui était conduite à l'époque par Blaise Compaoré, il avait été question de discussion avec Ansar Dine et des contacts avaient été établis à l'époque entre lui, l'envoyé de Blaise Compaoré, et à cette époque, il s'était dit favorable à un dialogue politique avec les autorités maliennes. Donc, c'est pas véritablement nouveau. Et en plus, dans ce communiqué de la semaine dernière, il expliquait qu'il y avait une convergence de vues entre les positions relatives au départ des forces étrangères et celles largement exprimées par certaines populations maliennes. Donc, véritablement, on peut dire que déjà, il y a un antécédent. En plus, les voix de plus en plus affichées de certains Maliens contre la présence étrangère a favorisé cette redistribution de Iyad Aghali.
Et est-ce que c'est la seule condition, le départ des troupes étrangères?
En réalité, dans son message, cette condition est beaucoup plus présentée comme une convergence de vues entre lui, Iyad Aghali, et certaines opinions maliennes favorables au départ des forces étrangères. Mais il est important de préciser également qu'aujourd'hui, c'est l'étape des discussions, une étape qui ne doit pas être confondue avec l'étape des négociations proprement dites et qui doit porter sur des sujets beaucoup plus concrets. Mais véritablement, il y a une phase aujourd'hui qui est celle des discussions et la question de la négociation doit être pensée dans une autre phase.
Discuter, négocier, discuter de quoi ?
Justement, ce qui doit être identifié dans la seconde étape qui, comme tu le disais, est celle qui doit intervenir après l'étape du dialogue. Mais déjà, il est très important de sortir ce processus de dialogue de son approche patrocentrée qui vise principalement les leaders des groupes, notamment Iyad Aghali, Amadou Koufa, pour s'intéresser de façon beaucoup plus locale à ce qui anime aujourd'hui cette protestation, cette insurrection armée.
Est-ce qu'on a un début d'idée de ce que veut Iyad Aghali ou les groupes armés? Est-ce que c'est une partie du territoire malien? Est-ce que c'est le partage du pouvoir à Bamako? Est-ce qu'on a une idée un peu?
Je pense que depuis 2013, donc depuis la campagne militaire franco-africaine, la volonté de ces groupes de contrôler ou d'installer un califat sur une partie du territoire de l'État du Mali ou même ailleurs dans le Sahel est résolue. On est beaucoup plus dans des revendications politiques, donc qui rejoignent le fait de la compréhension de ce domaine au-delà du prisme religieux. Pour dire qu'au cœur des griefs ou au cœur de la revendication armée, ce sont des questions liées à la gouvernance qui sont mises en avant. C'est également des questions qui sont mises en avant quand on discute avec les combattants de ces groupes-là. Donc on peut dire que la question de l'islam, l'application de la charia, peut être la bannière sur laquelle en réalité existent d'autres types de motivations qui sont beaucoup plus politiques que idéologiques.
Baba Dakono, chercheur à l'Institut d'études de sécurité de Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Coronavirus en Afrique, les autorités tchadiennes ont annoncé plusieurs mesures préventives de lutte contre le COVID-19 suite aux cas détectés au Cameroun et au Nigeria voisins. Ces mesures concernent les entrées sur le territoire tchadien. De N'Djamena, notre correspondant André Kodmadjingar.
Le Tchad décide de fermer ses frontières avec le Cameroun et le Nigeria, deux pays voisins où ont été signalés des cas de COVID-19. Ces mesures concernent aussi la traversée en pirogue tout le long du lac Tchad, affirment les autorités du ministère en charge de la sécurité publique. Cependant, 5 points de passage vers le Cameroun sont retenus et des traversées exceptionnelles sur le lac seront autorisées pour permettre aux équipes médicales de procéder au dépistage systématique. Begui Djimondom, économiste et spécialiste en conception et évaluation de politique publique, estime que cette mesure aura de lourdes conséquences sur les populations frontalières.
Dans ces zones, il y a un trafic assez grand, que ce soit au Nigeria ou au Cameroun. Et donc aujourd'hui, la fermeture de ces frontières, forcément, ça a un impact assez considérable parce que les populations sont vraiment liées par ces activités économiques. D'abord, dans un premier temps, il y aura une rareté des ressources. Les prix vont augmenter forcément. Ça va avoir des conséquences que nous ne pourrons pas toujours évaluer. Mais c'est des situations que nous avons déjà vécues par le passé, lorsque les attaques de Boko Haram étaient beaucoup plus récurrentes. Donc, quelles que soient les mesures que nous allons prendre, le souhait dans les médias est que sur le plan médical, on arrive à trouver une solution à cette épidémie.
Le chef de la diplomatie tchadienne prévient par correspondance les ambassadeurs des pays touchés par le COVID-19 que désormais ceux qui arrivent au Tchad seront soumis à des tests, voire des mesures de confinement si la situation l'exige. Le représentant résident de l'OMS au Tchad, Jean Bosco Ndiokoubayo, invite les autorités tchadiennes à ne pas gérer cette épidémie avec la peur dans le ventre.
Il faut qu'on arrive absolument à maîtriser la peur. Nous allons donc tous travailler à maîtriser cette peur-là, surtout à bien nous coordonner et puis surtout à finaliser le plan de contingence nationale pour le soumettre à financement parce que c'est ce plan qui va être notre boussole pour le moment. Pas de panique, il n'y a pas de cas au Tchad. Nous avons deux cas au Cameroun, mais je pense que le Tchad vraiment est dans la bonne direction.
Pour le chef du département de la santé publique, le professeur Mahamoud Youssouf Kayal, outre ces mesures préventives, des dispositifs médicaux sont déjà pris pour faire face à cette épidémie.
Nous sommes d'une façon ou d'une autre préparés parce que nous avons déjà sur place un laboratoire de troisième génération. Nous avons les réactifs et nous avons un hôpital et nous pouvons même mettre en quarantaine les suspects chez eux à la maison et chaque jour on viendra faire le nécessaire pour essayer de les suivre. Donc sur ce point-là, je crois que nous sommes en train de nous préparer dans la durée.
Le comité d'éveil a été mis en place par les autorités de N'Djamena pour s'assurer de l'efficacité des mesures prises pour lutter contre COVID-19. Andrei Kodmadjingar, N'Djamena pour VO Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Et nous vous l'avons dit, un premier cas de coronavirus a été diagnostiqué en République démocratique du Congo, dans la capitale Kinshasa, plus grande ville d'Afrique francophone. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo. Il s'agit d'un Congolais vivant en France. Pour en parler, Eddy Isango a justement joint le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo.
Un sujet congolais qui réside en France, qui est arrivé le 8 et qui, à son arrivée, ne présentait aucun signe. Et hier, il est allé consulter la clinique Ngaliema. Et c'est là où le service de clinique nous ont alerté. Et nous avons envoyé l'INRB. C'est l'INRB qui a confirmé.
Et depuis combien de temps est-il à Kinshasa?
Il est venu depuis quelques jours et nos services le suivaient. Et c'est aujourd'hui qu'on a confirmé la maladie. On l'a isolé et nous sommes en train de contacter les gens avec qui il était à contact pour que nous puissions aussi le tester. Et s'il ne présente pas le virus, ça va. Mais s'il présente la maladie, à ce moment-là, ces gens-là seront aussi mis en quarantaine.
Mais est-ce qu'on sait l'ampleur des contacts qu'il aurait eu? Est-ce qu'il a été à des endroits publics? Combien de temps déjà?
C'est ce que nous sommes en train d'investiguer maintenant parce que nous venons d'apprendre ce cas. Et mes services sont déjà au travail. Nous sommes en train de rechercher des contacts. Donc, le contaminé est déjà en isolement. Et mes services sont en train de rechercher partout par où il est passé pour tester les gens avec qui il était en contact.
Dans quel état est-il maintenant?
Il a la fièvre, il est, comme on dit en médecine, il n'est pas à risque, il n'est pas très très malade, mais il est là. On ne sait pas comment ça va évoluer, mais on est en train de prendre soin de lui.
Quelles sont les mesures prises par les autorités congolaises pour que, comme ce cas est déclaré, ça ne puisse pas prendre de l'ampleur? On sait que Kinshasa est une mégalopole.
Hein? on l'a isolé. Et puis de deux, nous sommes en train de chercher activement les gens avec qui il était en contact pour que ces gens-là, s'ils sont contaminés, ne puissent pas contaminer les autres. Et puis de trois, nous avons lancé un communiqué ici au Congo pour que maintenant que nous avons ce cas ici, que les gens prennent cette maladie au sérieux et qu'ils commencent à se protéger. Et que nous donnons comme conseil, il faut dire que ces gens-là puissent se laver les mains très fréquemment et aussi ne pas s'approcher des gens qui toussent, parce que la maladie se transmet par des gouttelettes de salive qui sortent de la bouche quand on tousse. Et puis quand vous vous sentez malade, quand vous avez la fièvre, quand vous avez des problèmes respiratoires, des difficultés respiratoires, et quand vous avez la fatigue, il faut dire immédiatement contacter votre médecin, aller pour que le médecin puisse savoir de quoi s'agit-il.
Quelles sont les mesures de prise en charge que vous avez prises?
Pour les passagers, par exemple, qui sont diagnostiqués au niveau de l'aéroport, ces passagers seront directement mis en isolement au niveau de Tinkouli. Mais ceux qui entrent sans signe de maladie et qui présentent le signe de maladie pendant qu'ils sont à la cité, à ce moment-là, on va les amener dans des hôpitaux qu'on a préparés ici.
Le docteur Eteni Longondo, ministre de la Santé en République démocratique du Congo.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Ici aux États-Unis, les démocrates ont tenu d'autres primaires hier dans le Michigan, le Missouri, le Dakota du Nord, le Mississippi, l'Idaho et l'État de Washington en vue de la présidentielle de novembre contre le républicain Donald Trump. Joe Biden a battu son rival Bernie Sanders dans au moins trois de ses États, dont le Michigan. J'ai d'abord demandé à notre confrère René Lec pourquoi le Michigan et aussi le Missouri étaient si importants.
Écoutez, ces deux États étaient particulièrement importants parce que vous vous souvenez, en 2016, Sanders avait battu Hillary Clinton dans le Michigan. Et la composition ethnique, la composition communautaire du Michigan est normalement plutôt favorable à quelqu'un comme Bernie Sanders. Donc de tous les États, et en plus de ça, le Michigan, c'est l'État où il y avait le plus de délégués aux ces primaires. Donc gagner Michigan était presque un must pour Bernie Sanders et il l'a perdu. Dans la journée, je disais que si Bernie perdait aujourd'hui Michigan, je ne voyais pas trop quel pourrait être le chemin de victoire pour lui dans ses primaires et je ne voyais quasiment pas la possibilité de rester trop longtemps encore dans la course.
Justement, on va y revenir tout à l'heure, mais par rapport au Michigan, le Mississippi aussi a voté massivement pour Joe Biden et on parle encore une fois de l'élément déterminant, le vote des Noirs.
Les Noirs qui constituent la majorité de l'électorat chez les démocrates, hein, bien entendu, hein, on parle ici des primaires démocrates. Et la victoire de Biden sur Bernie tournerait autour de 65-66 points de différence. Et vous savez, Idrissa, si vous regardez les trois États qui ont été déjà annoncés, qui sont confirmés au moment où on se parle, l'écart est quand même important, 66 points, 26 points pour le Missouri, 15 points quasiment pour le Michigan. Vraiment, c'est un knockout pour un super Tuesday numéro 2.
Comme vous le savez, Bernie Sanders est retourné dans le Vermont, son État, et il n'a rien dit. Il devait se rendre dans l'Ohio, tout comme M. Biden, mais le gouverneur de l'État leur a demandé, pour raison de coronavirus, de ne pas venir. Mais quand même, on pouvait s'attendre à une déclaration dans le Vermont de M. Bernie Sanders. Est-ce à dire qu'il a vu que c'était fini et...
Je ne sais pas. Bon, en tout cas, moi, il me semble que la cause est quand même relativement entendue à ce stade-ci. Bon, il y reste quand même trois États où... on n'a pas encore les résultats, Washington, North Dakota et Idaho. Mais dans tous les cas, globalement, la victoire de Biden, elle est manifeste. Mardi prochain, au Tuesday, Super Tuesday numéro 3, pratiquement tous les États où il va y avoir une élection, Biden sera favori, largement favori.
Notre confrère René Lake, joint ici à Washington.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, le combat pour l'égalité. Plus de 100 ans depuis que la Journée internationale des femmes a été célébrée pour la première fois. Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes est le thème de cette année.
L'occasion pour nous de faire le point sur les avancées dans les domaines politiques, économiques et sociaux, mais aussi les obstacles. Le chemin encore à parcourir pour arriver à l'égalité. Nous allons discuter de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel. Vous pouvez réagir sur la page Facebook de VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Carl Starling. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.